Les Grandes Gueules sur RMC avec Biofib. L'isolant en chanvre, facile à poser, qui protège de la canicule. Biofib, ça chanvre tout.
RMC, 9h midi. Les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
9h, c'est effectivement le coup d'envoi des GG. Bonjour à tous, nous sommes là, vous êtes là, c'est l'heure du direct, 3h à passer ensemble, à discuter, à débattre au 32-16. Bonjour Olivier Truchot.
Salut Alain, bonjour les Grandes Gueules, bonjour à tous.
Aujourd'hui dans les GG, Marianne Soubré, avocate, bonjour maître.
Bonjour à tous.
Nous sommes avec le restaurateur Stéphane Manigold, bonjour Stéphane.
Salut Alain, salut les GG, salut les Blongers et Cocorico.
Bon, on verra ça tout à l'heure effectivement, et nous sommes avec Bruno Pomard, l'ancien policier du RAID et le maire de Belfoux dans l'Aude. Bonjour Monsieur Pomard.
Salut Alain, salut Olivier, salut aux Grandes Gueules et puis salut à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, enfin aux millions de gens qui nous écoutent et qui nous regardent.
Et qui nous podcastent aussi.
Aux milliards
aussi.
De gens tu veux dire.
Ah, c'est près de bientôt.
Et surtout qui écoutent le foot sur RMC. Ouais, enfin, parce que si on voulait savoir exactement ce qui se passait hier à la fin du match, il valait mieux être sur RMC que sur TF1. La preuve en images et en son.
Et on n'ira pas plus loin, on n'ira pas plus loin. Monsieur Cambier qui libère tout le monde sur ce but d'Antoine Griezmann, sur cette égalisation de dernière seconde un partout. On revient bien sûr avec toutes les réactions.
C'est pas fini, revenez ici, l'arbitre a corrigé, il vient de siffler la fin du match et de suite il a regardé le quatrième arbitre, on lui a parlé dans l'oreillette, il est en train d'aller voir l'image du but d'Antoine Griezmann. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va annuler le but? Il annule le but.
Victoire de la Tunisie.
La voix de Grégoire Margoton qui a, comme on dit dans notre langage, envoyé la pub sur TF1, tandis que Jeannot Rességuier est à la radio. Attendez les gars, revenez, c'est pas fini. Bah
merci à Jeannot Rességuier, on est bien informé, on est mieux informé sur RMC. Je sais pas quoi, c'est une manie maintenant sur TF1 de balancer la pub à peine le match terminé. Il y a une seconde là, boum, il faut balancer la pub. Ils se sont fait avoir. Alors le groupe TF1 s'est excusé, voilà. Mais c'est vrai que merci à Jeannot Rességuier et à RMC de nous tenir informés. Le match était vraiment nul. Mais on nous a un peu volé ce match nil. Parce qu'il y a deux scandales. Il y a, bon, ça, d'accord, TF1, c'est-à-dire que le spectateur TF1 ne savait pas ce qui se passait, mais en plus, on nous a volé notre match nul, puisque le recours à la vidéo qui entrait l'annulation de l'égalisation de Griezmann, en fait, est visiblement contraire au règlement, puisque le match était terminé, donc l'arbitre ne peut plus aller voir la VAR pour ensuite annuler ce but.
Il y avait eu remise en jeu. Et quand il y a remise en jeu, tu ne peux plus revenir sur la décision de la VAR. Tu ne peux pas refaire appel à la VAR.
L'erreur, en fait, elle vient plutôt de la réalisation, etc. Parce qu'ici, il y a une réalisation qui est super. Les techniciens qui ont lancé la pub, je ne sais pas, enfin, c'est votre métier, mais il y a peut-être une erreur de cadrage, de timing là-dedans.
Non, c'est parce qu'on leur dit, voilà, le match est terminé, 30 secondes, tu remercies tout le monde et on envoie la pub. Quoi.
Est-ce que le vrai scandale, c'est pas l'arbitre qui invalide un but alors qu'il n'aurait pas dû le valider? Enfin, je veux dire, c'est là, et tu l'as dit, Olivier.
L'équipe de France, la fédération, dépose un recours, d'ailleurs.
Ah bah, ils ont raison. Mm-hmm. Parce que, techniquement, il y a match nul. Le but ne peut pas être invalidé.
Alors, ça n'aurait rien changé. La défaite ne change rien à ce qui doit se passer avec les Bleus. Hein. C'est-à-dire,
et au niveau quand même du match, parce qu'on a été quand même très mauvais.
Et la Pologne. Et le banc n'a pas été bon.
Très
bon,
marié.
T'as pas regardé? T'as pas écouté?
Si.
Alors, et tu n'as toujours pas compris?
Elle a l'air sur la lune.
Les gens courent.
Alors, j'ai vu un gars avec beaucoup de cheveux. Et si j'ai bien compris, ce gars qui avait plein de cheveux, il jouait très très mal.
C'est Guendouzi.
Voilà.
Et je pense que tu ne le reverras pas.
C'est à peu près tout ce que j'ai vu. Non, j'ai vu Griezmann, il a été formidable. Voilà. Et avec ma fille, ma fille est arrivée, on a regardé. Et puis.
Vraiment la fin, quoi. En fait.
La fin.
Ah oui, d'accord.
Le meilleur moment.
De toutes les manières, si vous voulez en reparler, vous savez qu'RMC, c'est la chaîne du foot. Vous en reparlez avec les petits camarades du service des sports qui sont au Mondial. Tout au long de la journée, au 32-16. Quant à nous, on va parler d'un autre match qui va s'enclencher, le bras de fer entre les syndicats de la SNCF et la direction. Au milieu, les usagers. Ça commence dès ce week-end, les mouvements de grève dans les transports chemin de fer, rail. Où Noël et le jour de l'an devraient être touchés. Parole de syndicalistes et parole de clients.
RMC, les grandes gueules.
Vous avez dit 90% des gens qui se déclarent en grève alors que les syndicats, on n'a même pas appelé à faire grève. tout seul, ils se sont autogérés, c'est qu'il y a un véritable problème. Moi, on n'est pas là pour embêter les gens.
Quand ça arrive, c'est toujours embêtant puisque c'est une période où justement les familles se retrouvent et qu'on est pénalisé dans ces moments assez importants. Donc oui, on s'y attend.
Il devrait y avoir un service minimum. Je suis d'accord avec le droit de grève, mais pas sur des services qui sont utiles à tous les citoyens. Je trouve ça pas normal du tout.
Alors, vous avez entendu Fabien Villedieu de Sudrail. Nous ne sommes pas là pour embêter les gens. Non, écoutez la mobilisation qui commence, nous dit Villedieu.
Alors, en même temps, il n'a pas tout à fait tort parce que les médias disent grève surprise. En fait, c'est la SNCF qui tend à nous faire croire que c'était une grève surprise. Or, les préavis ont été déposés fin octobre. Donc, il y a une petite manipulation de la part de la direction. Sans doute, c'est une question de com', hein, c'est pour faire peser les conséquences de la grève sur les grévistes et non pas peut-être sur la direction qui n'entend peut-être pas non plus les revendications des contrôleurs. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas parti des syndicats, c'est parti d'un collectif de contrôleurs. Les syndicats, derrière, ont été un peu obligés de suivre. D'ailleurs, c'est de plus en plus comme ça. C'est-à-dire que le terrain est remonté, les syndicats un peu dépassés sont obligés de suivre le terrain. Donc, le terrain a été remonté, les contrôleurs disent qu'ils ont de plus en plus de boulot, ils sont de plus en plus seuls dans le DTGV, de plus en plus long. Bref, donc ils demandent à être mieux considérés. Résultat, c'est que quand même, ça va être la galère ce week-end pour les Français qui voulaient prendre un train, puisque 60% des TGV, des intercités, sont annulés de vendredi à dimanche. Puis surtout que tout le mois de décembre s'annonce agité, parce qu'il y a déjà des préavis de déposer. Alors là, ça sera plus pour les négociations salariales annuelles qui vont commencer, et les syndicats veulent mettre la pression sur la direction. Et si vous avez aimé décembre, vous aimerez janvier, parce que janvier, c'est la réforme des retraites. Et là aussi, les syndicats se réunissent aujourd'hui et demain pour définir des modes d'action pour le mois de janvier contre la réforme des retraites.
Maître Soubré, Marianne.
Bah écoute, non mais vous savez que je suis moi le chat noir du JG7 et match, et je suis aussi le chat noir des week-ends, parce que en fait je devais partir en week-end au moment de la pénurie de carburant, et on devait y aller en voiture, et puis on a annulé parce que il y avait la pénurie de carburant, et on avait déplacé à ce week-end où on part cette fois-ci en train, et donc là je dis non, c'est pas possible, on a aussi une grève. Et ben figure-toi que je suis pas le chat noir jusqu'au bout, parce que tous les trains d'avant et d'après, les miens sont supprimés mais pas les miens.
Tu vas où?
Je vais en fait sur la côte atlantique, en passant par Bordeaux.
Et le tien, il est maintenu.
Un préavis de grève vient de tomber pour la côte atlantique.
Très bien, vient de
l'annoncer.
Mais écoute, donc effectivement, je vois bien la difficulté. Je vois d'autant plus la difficulté qu'effectivement, c'est tous les week-ends de décembre. Qu'on est aussi sur EasyJet et Air France qui parlent de préavis de grève pour la période de Noël. Et de la même façon, la SNCF aussi parle de grève un peu plus dure encore pendant la période de Noël. Moi, j'ai coutume de dire... Si
c'est
vous...
insupportable.
Bah, écoute, oui et non. C'est-à-dire que sûr, en tant qu'usager, c'est très compliqué.
Voilà. Elle nous fait du Macron.
Pendant longtemps, si tu veux...
La gauche de droite.
Pendant longtemps, tout le monde le sait ici, je disais, si vous voulez connaître les calendriers des grèves SNCF, regardez le calendrier des vacances scolaires. Parce que c'était toujours comme ça. Effectivement, aujourd'hui, c'est encore comme ça, sauf que j'ai vu le service se dégrader, sauf que je comprends pourquoi ils le font.
Donc finalement...
Plus ça va et plus je suis d'accord avec eux. Voilà. Absolument.
Ah
oui. Non, mais vraiment. Et je commence à dire. Et quand ils disent oui, nous savons que nous ennuyons. Et je reste poli. Les usagers. Voilà. Mais on le fait aussi pour eux. C'est pas tout à fait faux non plus. C'est vrai que prendre le train aujourd'hui, comme prendre les transports en commun, c'est de plus en plus inconfortable. Enfin voilà. Donc le service se dégrade. Je comprends pourquoi ils font des grèves.
Moi je peux pas accepter quand Fabien Villedieu. Enfin je suis d'accord avec lui en fait quand il dit. On n'est pas là pour embêter les Français, c'est vrai. Ils nous embêtent pas, ils nous emmerdent. C'est pas la même chose. Et non, mais c'est vrai. Je veux dire, il y en a ras-le-bol. Et je me souviens d'une émission ici, il y a pas très longtemps, avec notre ami Bruno Poncet, où on avait annoncé les chiffres records de la SNCF. Où ça y est, ils ont vendu plein de billets de train pour les vacances de Noël, pour le mois de décembre, ça a fait le plein. Et j'ai annoncé quoi au micro des GG? Prof, vous allez voir, attendez, ils vont les rembourser, il y aura des grèves. Eh ben, on y est. Ils sont là pour emmerder leur monde. Ils sont pas là pour défendre l'intérêt général. C'est pas vrai, ce sont des planqués. Et d'ailleurs, j'avais interpellé Fabien Villedieu en lui disant, mais en fait, si les conditions de travail sont si toxiques, si désagréables, mais il y a tellement de métiers qui recrutent.
Oui, la restauration.
Mais juste la restauration, l'agriculture, la plomberie, les artisans, tout le monde recrute. Mais tu sais pourquoi ils partent pas? Mais tout simplement parce que la soupe est bonne et que
la gamelle, ils veulent surtout pas la retirer. La soupe est bonne.
On a du mal à recruter maintenant la SNCF.
Bien sûr.
Le nouveau statut.
Mais RATP, SNCF, ils ont beaucoup de mal à recruter des conducteurs. Et le problème de la SNCF, c'est aussi qu'ils ont trop de cadres, peut-être. Ils n'ont pas assez de personnel roulant. C'est ça le problème de la SNCF.
Maria, est-ce qu'on peut avoir une pensée à nos amis alsaciens, actuellement, où le marché de Noël a démarré, et plein de Français et Françaises voulaient aller avec leurs enfants voir les marchés de Noël de Kaisersberg, de Riquewihr, de Colmar, de Strasbourg, visiter la France, partir en week-end, décompresser. On en a ras-le-bol de ce lot de mauvaises nouvelles auxquelles la SNCF participe.
Non, moi, je partage l'avis de mes petits amis, enfin, surtout de Stéphane Manigault. quand tu dis, Olivier, il y a un préavis de grève, effectivement, depuis le mois d'octobre, mais enfin, en attendant, les grèves tombent systématiquement sur des week-ends, sur des périodes de vacances. Donc, ils font chier tout le monde. Excusez-moi du terme, mais voilà.
Ils font pression.
Et encore une fois, Sud-Rail sont les premiers en tête pour, effectivement,
tu prends le train, Bruno.
Oui, je l'ai pris.
Tu vois bien, et Marianne a raison. On voit bien qu'aujourd'hui, le service, quand même, se dégrade. Et même à bord, on voit bien qu'il n'y a pas le nombre de contrôleurs ou de personnel qui est suffisant. Reconnais que c'est de plus en plus compliqué.
Alors écoute, je l'ai
donc,
pris.
Si tu veux, il y a peut-être un moment à dire. On peut les entendre, ou tout du moins, on peut les écouter, voir précisément ce qu'ils veulent aussi, Bruno.
Il y a plein de choses. Les avantages, ils en ont en pagaille. Comme dit Stéphane, ils ont qu'à aller voir ce qui se passe dans les métiers de la pompe de rive. Dans la vraie vie, ouais, effectivement. Non, il faut arrêter. Non, moi, j'ai pris encore le train la semaine dernière, le TGV. Je veux dire, il était propre, nickel. Je veux dire, j'ai fait un aller-retour à Marseille.
Ce qu'il y avait, c'est moins cher.
Mais c'est moins cher, c'est le but.
C'est du low cost.
C'est moins cher, mais c'est ultra, ultra low cost. Le Ouigo.
Tu sais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup.
Tu dois payer pour avoir une prise dans le Ouigo. Tu rajoutes, en fait, à ton billet.
Tous les contrôleurs sont
chers. Tu payes ton ostéopathe parce que t'as mal au dos.
J'ai remarqué un truc, un petit détail, c'est que, on parlait de la hiérarchie, etc. Tous les contrôleurs dans le train sont chefs. Tu n'avais pas remarqué? Le gars, il a dit, le chef, je suis chef du train, mon collègue est chef, etc. Ils sont tous chefs de notre train.
Alors, on a notre GG, tu l'as évoqué tout à l'heure, Stéphane, notre GG Bruno Poncet.
Oh, Bruno!
Qui est avec nous. Bonjour, Bruno.
Bonjour.
Donne-nous les, tu vois, je l'avais dit, hein.
Bruno, donne-nous les raisons précises de la grève et ce que vous demandez, ce qui est demandé.
Mais en plus, pour répondre juste à Bruno, ça s'appelle un chef de train, chef de bord, c'est pour ça, c'est un peu.
Il y a tous les chefs.
Oui, mais c'est juste un nom, hein. c'est pas parce qu'ils sont chefs de quoi que ce soit, c'est juste le nom de leur fonction, c'est pas non plus.
T'es chef, toi, Bruno ?
Ah non, moi je suis chef de personne, vous le savez bien, de toute façon, j'ai pas. Puis moi, il y a ni Dieu ni maître, donc forcément, il n'y a pas de chef.
Bah, il fait du syndicalisme.
Alors, qu'est-ce qui est demandé, Bruno, par cette grève ? Quelles sont les revendications précises, alors ?
Il y a déjà un problème de rémunération, mais comme tous les métiers de France, malheureusement, aujourd'hui, vu l'inflation, vu la crise actuelle qu'on traverse, donc il y a déjà un problème de rémunération, et nous, l'entreprise. Enfin, nous, on est sur une entreprise qui n'a pas augmenté depuis 8 ans les salaires. Donc, effectivement, vous vous retrouvez avec des gens qui ont perdu du pouvoir d'achat, mais en plus, qui ont perdu de la qualité de vie. Ensuite, il y a un vrai problème aussi de fin de carrière, de déroulé de fin de carrière, où mes collègues partent en retraite avec des retraites de plus en plus faibles. Et donc, ils demandent une revalorisation de leur fin de carrière afin d'avoir une retraite un petit peu réévaluée. Et puis, il y a aussi des problèmes de conditions de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui prennent le train le voient bien... Il y a un problème d'effectif, donc moi, mes collègues sont de moins en moins nombreux dans les trains, donc ça fait de plus en plus de travail. Ils font de plus en plus de missions dans le train, on leur demande de plus en plus de choses. Bientôt, on leur demandera même de faire des cafés et tout, si ça continue, parce que l'entreprise, elle est dans la réduction des coûts.
Donc, Bruno, combien gagne un chef de bord ?
Je crois que, si je ne me trompe pas, parce qu'après, chez nous, il y a des primes, plus tu fais, quand tu fais des trains de week-end, tu gagnes un petit peu plus. Mais je crois que salaire brut doit être à... Je ne vais pas dire une bêtise, mais je pense que ça doit être 2000 bruts, 2000 à peu près.
2000 bruts
que... à peu près, et avec les frais de déplacement.
Non, ça fait moins de 1500
euros. Tu nous adores, là, Bruno, tu nous adores un petit peu.
Non, non, je vous dis, mais je vous
parle de
sans prix. Mais non, mais moi, mes collègues, ils ne sont pas... Enfin, la plupart de mes collègues que vous croyez, c'est des agents d'exécution. Les agents d'exécution SNCF, le salaire de base, il a 1300 balles. Donc, vous n'allez pas avoir des mecs...
Non,
à la fin du mois, là, plus ceux qui font...
Oui, il faut compter 13e mois aussi, parce que vous comptez jamais 13e mois.
Mais Bruno, le salaire moyen d'un chef de bord, indice 2020-2021, alors peut-être que ça a été réajusté, chef de bord SNCF, ceux qui sont en comptant...
2004,
les primes, c'est 1800 à 2000 euros net. Avec les primes,
Il faut compter 13e
mois aussi.
C'est ce que disait Bruno.
Mais Bruno, au-delà de cette bataille de chiffres, il y a quand même une volonté, je vois bien, de faire pression alors que les négociations salariales annuelles vont commencer, un peu comme les raffineurs l'ont fait également, avant même de négocier.
Non, là, ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que ce mouvement-là a été initié par des contrôleurs eux-mêmes, hors syndicats, qui ont dit, nous, on n'en peut plus, et ça remonte à... Pour ça, moi, quand j'entends Krakowicz qui explique dans la presse qu'ils ont discuté, ben non, c'est pas vrai, parce que ces contrôleurs-là le répètent à leur hiérarchie depuis le début de l'année. Et puis, depuis la fin de l'été, ils ont commencé à monter quelque chose tout seul, en disant, ben nous, on en a marre, et donc on va arrêter de travailler.
Oui, mais il y a des propositions qui ont été faites par la direction. Il y a une prime de 600 euros annuels, il y a l'idée peut-être de mettre effectivement deux chefs de bord au lieu d'un. Il y a quand même des propositions qui ont été faites par la direction, peut-être pas suffisantes, mais on peut pas dire que la direction n'a pas compris qu'il se passait quelque chose.
Oui, mais entre te faire des propositions et de faire de la réalité, là, t'as un rêve d'état.
Ça s'appelle une négociation.
Mais
ils mettent la pression. Ce que je veux dire, ils mettent la pression alors qu'il y a une négociation. Maintenant, maintenant le syndicaliste c'est devenu ça, c'est-à-dire que on met la pression, on installe un rapport de force au moment des négociations. Alors avant. Que l'idéal, ça serait quand même de négocier. Et si jamais les conséquences de cette négociation ne satisfait personne, eh bien dans ce cas-là, on fait grève. Là, ce qui est un peu gênant, ce sont des grèves un peu préventives, parce que ça a des conséquences pour des millions de voyageurs.
Oui, mais ça j'entends. Mais regarde, aujourd'hui, tu vois, par exemple, attention, les concertations pour la loi retraite. Tu vois, où ils t'en disent, oui. On reçoit les organisations syndicales. Moi, j'ai connu les concertations de midi sur la réforme ferroviaire. On te reçoit, on fait semblant de t'écouter parce que c'est comme ça que ça marche, et à la fin, on te pond le truc le plus dur en te disant, bah, écoute, c'est ça et c'est pas autrement. Et donc, tu penses réellement que si tu attends le fait d'avoir ça, et on l'a vu en 2018, c'est-à-dire qu'on est parti en grève une fois qu'on nous a pondu la loi, ben après, derrière, ce qui s'est passé, ils n'ont pas bougé d'un iota, et donc à la fin, tu trouvais qu'une loi ferroviaire qui aujourd'hui pénalise tout le monde. Et donc, si tu fais tes grèves, et si tu penses que tu vas partir en mouvement une fois que tu as fini tes négociations, mais ça sert à rien.
Je suis d'accord avec toi, Bruno. Effectivement, il y a une responsabilité aussi des directions et du pouvoir qui joue ce jeu malsain.
Et attends, Olivier, tu rappelais à l'instant que le préavis de grève a été déposé fin octobre. Or, il y a des discussions et des négociations annuelles qui sont obligatoires et qui débutent mercredi. Donc, quand tu poses un préavis de grève fin octobre, alors que tu as des discussions obligatoires prévues mercredi, c'est le monde à l'envers. Non, Bruno,
Il y a des préavis qui sont déposés pour tous les week-ends de décembre.
Bruno, lors de notre échange, lorsqu'on avait parlé des chiffres records de la SNCF, je t'avais dit... parce qu'il y avait beaucoup de réservations au mois de décembre, tu vas voir, ils vont encore prendre les Français en otage. Non. Ah, t'es dit, j'avais pas pensé.
Non, mais dis pas ce mot-là, déjà, Stéphane. Je vous ai peut-être vous le dire depuis tout à l'heure, vous n'entendez pas. Ouais. C'est pas une grève de tous les agents de la SNCF, c'est une grève des contrôleurs de train.
Le train est gratuit.
Oui, mais il y a des préavis qui sont, tu le sais très bien, qui ont été déposés pour les prochains week-ends. Et là, ce sont les négociations salariales qui sont en jeu.
Non, c'est pas vrai.
Un train peut pas circuler sans contrôleur, Bruno.
Bruno, merci d'avoir été avec nous. Bruno, on t'attend dans les GG, comme ça, tu pourras en reparler de vive voix de nouveau avec nous.
Un truc, moi j'ai croisé des contrôleurs à la gare Saint-Lazare et il y en a un, Faouzi, et il est un peu amoureux de Kauter. Donc quand Kauter sera là, dites-lui qu'il n'y a pas de
Saint-Lazare. On lui dira demain,
demain.
Et est-ce que tu as gardé le numéro de Faouzi? On ne sait jamais.
Il est sur la ligne Paris-Marseille.
Il
est sourd. Donc il demande une mutation.
Il est sourd, Bruno?
Non, mais il aime beaucoup ce que dit Kauter.
Merci, Bruno. On transmettra le message. Salut, Bruno. À bientôt. Allez, on continue de discuter.
On a quasi Kauter.
De cette grève à la SNCF dans un instant avec Fabien. Il est du côté d'Ille-et-Vilaine. Il est responsable commercial. Et il a, les nerfs et un peu les boules, quoi. À tout de suite.
Les Grandes Gueules sur RMC avec Biofib. L'isolant en chanvre, facile à poser, qui protège de la canicule. Biofib, ça chanvre tout.
RMC,
9h30,
Les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
On discute ensemble dans les GG, dans les Grandes Gueules. On discute avec Marianne Soubré, avocate, Stéphane Manigault, restaurateur, Bruno Pomard, l'ancien policier du RAID, le maire de Belleflot dans l'Aude. On discute ensemble de ces grèves là qui arrivent à la SNCF. Ça commence dès ce week-end. Des préavis qui sont déposés pour les week-ends, puisque Noël et Jour de l'An vont tomber des week-ends. Donc ils sont prévus pour ces jours-là. Vous avez entendu Bruno Poncet, notre cheminot GG, nous dire écoutez quand même les revendications, et puis c'est un mouvement qui vient des contrôleurs, de ceux que vous voyez au quotidien là, qui sont dans les rames notamment de TGV, dans les voitures de TGV. C'est Fabien qui va en parler avec nous, il nous appelle d'Ille-et-Vilaine. Bonjour Fabien.
Oui, bonjour les GG.
Alors vous êtes prêt à écouter quand même la colère, les revendications, mon cher Fabien?
La colère, je l'entends, mais dans quel milieu, dans quel monde on vit? On est en train de jalouser ses collègues, on est en train de jalouser des copains. Et si on est jaloux du métier que fait quelqu'un d'autre, parce que c'est le cas, hein, les contrôleurs sont jaloux des conducteurs, et rien ne les empêche de changer de métier, de passer conducteur. Ça. On est en train de parler d'efforts collectifs pour les retraites, éviter les régimes spéciaux. Et là, ce qu'ils demandent, c'est plus d'acquis, plus de confort. Mais si moi, j'ai un copain qui me dit, bah, écoute, Fabien, moi j'ai 5 semaines de congé, je suis VRP, j'ai pas de RTT, rien de plus. Si un copain me dit, moi, dans mon métier, j'ai 20 jours de congé, bah, c'est bien, tant mieux. Si je les veux, ces 20 jours de congé supplémentaires, bah, je change de métier, rien ne m'empêche. On a quand même libre accès à l'emploi en France. On va pas jalouser un copain et demander à son employeur, bah, écoute, un collègue qui fait un autre métier a plus d'avantages que moi, est-ce qu'on peut, parce que sinon, j'arrête de travailler, on va où?
Non, mais c'est je pense qu'en fait, c'est ce que nous expliquait tout à l'heure Bruno, c'est-à-dire que ça fait 8 ans qu'ils n'ont pas été augmentés. Est-ce que c'est pas aussi un problème de perte de niveau de vie? C'est-à-dire que avant, quand on était contrôleur SNCF ou autre, on avait, on va dire, un certain niveau de vie qui n'était pas énorme, mais qui permettait de vivre plutôt pas mal parce qu'on avait des tarifs sur les vacances, etc. Aujourd'hui, en fait, parce qu'ils n'ont pas été augmentés, parce que tous les services se dégradent au final, ben, on n'a plus du tout la même vie avec le même travail. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que moi, je constate ça dans tous les corps de métier. C'est
Marianne,
tout, pour tout le monde pareil. Est-ce qu'on va tous...
Oui, mais là, on parle de la grève.
Marianne, mais oui, mais Marianne, la grève, elle est liée à ça.
Moi, je m'étonne.
Elle est liée au fait de la perte,
c'est ce que je veux dire. Moi, je ne conteste pas les motifs de la grève. Je m'interroge dans cette boîte, c'est quand même une boîte qui fait grève tous les ans,
bien sûr,
depuis 1945, depuis la Seconde Guerre mondiale. Il
n'y
a pas eu une année sans grève à la SNCF. Je me dis, dans une boîte où il y a une grève chaque année, il y a un problème. Parce qu'il y a des problèmes de salaire, etc. Il y en a dans toutes les boîtes, privées, publiques, et il y a des contestations, parfois il y a des grèves.
Mais
c'est une boîte où il y a une grève tous les ans, au minimum.
C'est peut-être
sincèrement,
aussi parce qu'ils ont trop de non-roulants par rapport aux non-roulants.
Explique-moi pourquoi il y a une grève tous les ans dans cette boîte.
Il y a trop de cadres à la SNCF. Il faudrait qu'à un moment, ils remettent les billets.
Est-ce que ça justifie qu'il y a une grève tous les ans, au minimum?
C'est parce qu'ils
défendent pour préserver leurs acquis. Soit, au passage, pourquoi pas. Mais demander encore plus par rapport à tous les avantages, parce que peut-être que leur niveau de vie s'est un peu dégradé, mais je pense que l'ensemble des Français, le niveau de vie s'est dégradé
depuis
quelques années, avec l'inflation et tout ce qu'on entend. Maintenant, ils ont quand même un confort de congés, de RTT. Ils ont choisi d'aller dans cette voie. Maintenant, c'est la fonction.
Oui, mais c'était pas pour ça. C'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années. Non, mais si au fur et à mesure des années, vous avez de moins en moins, et ce que vous aviez finalement ne correspond plus à rien, moi, je comprends qu'ils en soient là. Quand tu vois que la SNCF, ils ont, je sais pas quelle est la proportion. L'un d'entre vous, c'est la proportion entre le nombre de roulants et le nombre de non-roulants. Il y a beaucoup trop de non-roulants à la SNCF.
Oui, mais
merci à Fabien d'avoir été avec
Marianne.
J'aimerais juste te poser une question. Marianne, tu es chef d'entreprise, tu es en libéral, tu as des collaborateurs. Si chaque année, ton cabinet perd de l'argent, est-ce que tu es en capacité d'augmenter tes collaborateurs? Elle est simple la question.
Mais
est-ce que tu es en capacité d'augmenter tes collaborateurs?
C'est pas une entreprise privée, justement,
mais
c'est bien ça le problème.
T'es pas obligé de perdre 50 milliards non plus.
Mais non, mais tu pourrais la gérer autrement et tu pourrais faire en sorte de pas avoir autant de cadres, parce qu'il y a quand même un vrai problème à la SNCF sur le nombre de cadres par rapport au nombre de gens qui sont dans les trains et qui sont mécanos.
Tu sais très bien que la SNCF, ce que tu dis là, c'est certainement du bon sens. Mais la SNCF, c'est pas possible de réformer la SNCF.
Moi, ce qui m'exaspère, et Olivier le disait très justement, ils sont tous toujours en train de faire des grèves depuis que la SNCF existe, en gros. Moi, je pense à des personnes comme les ouvriers agricoles, les ouvriers maçons, ces gens-là qui ferment leur gueule, on les entend jamais sur les... On n'en parle jamais d'eux, il ne faut jamais grève parce qu'ils doivent bosser. Il y en a ras la casquette entre la RATP, la SNCF, tous ces gens qui ont un métier de service public, sont sans arrêt à nous foutre le bazar dans ce pays. Voilà, point final, ça s'arrête là.
Écoute,
moi, je passe aux ouvriers.
Ils passent 15 jours dans le bâtiment à faire des ravalements de façade.
Oui,
tu verras qu'il
y en a marre.
Ils vont recourir et trouver que leur boulot est top.
Tu sais quel est notre problème? C'est qu'on nivelle tout par le bas et qu'on est en train, d'accepter qu'on a aujourd'hui la mortalité infantile qui augmente, ce qui n'a jamais été vu dans un pays. Non, mais on accepte tout. On accepte toutes les dégradations. Et alors, sous prétexte que les ouvriers agricoles, ce qui est vrai, sont dans des situations très difficiles, on devrait dire, ah ben la SNCF, fermez votre gueule. Mais non, en fait, en réalité, moi, je
soutiens-les, Marianne. Tu as raison, soutiens-les.
Non, mais Marianne, c'est pas ce qu'on dit. Les conditions agricoles sont extrêmes.
Mais bien sûr,
on peut considérer quand même que les conditions agricoles sont extrêmes versus les conditions de la SNCF.
Niveler par le bas.
Non, pas du tout.
On accepte tout. Et
à un moment, l'argent public. On parle d'argent public. Tu l'as dit toi-même.
C'est notre
pognon. On parle d'argent public. Et bien peut-être que c'est pas la priorité d'améliorer les conditions des salariés de la SNCF.
Nous sommes avec Alexandre, qui est conducteur SNCF justement, conducteur de train. Bonjour Alexandre.
Vous êtes jalousé par les contrôleurs.
Bonjour les grandes gueules.
m'entendez?
Oui, très bien. Alors, expliquez-nous, monsieur Alexandre Duchère, là, ce qui se passe, si vous êtes solidaire, parce que c'est les contrôleurs, c'est les chefs de bord, c'est pas vous qui êtes en grève.
Et qui voudraient le même statut que les roulants. Alors, si j'ai bien compris.
Oui, tout à fait, effectivement. Donc là, c'est une grève de contrôleurs, là, qui est prévue, donc, ce week-end. Et, alors moi, pour mon cas, je suis conducteur fret SNCF et je suis totalement solidaire de mes collègues. Fret. Parce que contrairement à ce que j'entends depuis tout à l'heure, donc, ce que dit monsieur Manigold, qu'on était planqué, trop payé. Alors moi, je vais juste vous situer quelque chose, comme ça vous allez bien comprendre. Je vais attaquer ma 11e année à la SNCF et mon traitement de base, il est de 1 839,14 €. Brut.
Brut.
Et vous avez combien de primes?
On est bien d'accord. Non, mais attendez, monsieur Pomard, laissez-moi
finir. Allez-y.
Vous savez ce que c'est mes heures? Moi, en fait, je suis conducteur de train frais, donc à chaque fois que je pars, je suis en découché. Donc, généralement, je pars le jeudi et je reviens le samedi matin, à peu près, pour vous situer. Donc, on est payé en découché et en prime, tout cumulé, je suis à peu près 800-900 €. Voilà.
Donc vous travaillez 3 jours par semaine?
Non, je travaille pas 3 jours par semaine. Quand je pars, généralement, c'est sur une période de 2 ou 3 jours.
Et donc, 3 jours.
Ça, 2 fois par semaine. Donc, je travaille entre 5 et 6 jours par semaine. Mais quand je pars, je découche systématiquement à l'extérieur de mon domicile.
Vous faites 2 fois 3 jours? Je n'ai pas compris votre
mot.
Je suis en décalé, si vous voulez. Je peux prendre le jeudi à 19h, finir le vendredi à 2h du matin. Je suis en découché et je repars le vendredi dans la nuit de samedi, par exemple, à 1h du matin. Et je rentre le samedi matin à 9h. Donc, en fait, voilà. Je pars pratiquement 3 jours.
Alexandre, donc, vous travaillez 15 jours par mois, quoi.
Alexandre, moi, j'entends.
Non,
j'aime beaucoup.
Je travaille une vingtaine de jours par mois. D'ailleurs, monsieur Manigold, je vous invite, si vous savez pas quoi faire, à venir avec moi. Je travaille souvent sur la région parisienne. Et donc, mon salaire, on va dire en moyenne, sur une année, il est à peu près entre 2500 et 2700 € par mois. Je dors
net.
Entre 8. Oui, net, oui.
C'est pas net, mal, c'est net. Bien. Moi, en fin de carrière, j'ai fini major de police à 2 400 €, donc c'est pas mal.
Oui, dommage pour vous, fallait.
C'est peut-être pas votre niveau, effectivement,
Moi, je préfère vous dire, moi, pour 2 500 à 2 700 € par mois, donc moi, je découche de chez moi entre 8 et 9 fois par mois.
Ah oui.
Je travaille les samedis, les dimanches, et je fais que des horaires de nuit.
Ah oui, c'est bon. En fait, c'est des primes de nuit. Il a beaucoup de primes de travail de nuit, en fait.
Et quel est le sujet, Alexandre, puisque vous m'apostrophez, quel est le sujet? Est-ce que vous vous plaignez de vos conditions de travail ou est-ce que vous vous plaignez de votre salaire? Parce que c'est deux sujets différents. C'est votre niveau de salaire qui conduit à avoir.
Monsieur Manigold, s'il vous plaît. Moi, en fait, ce que je veux expliquer aux gens, moi, j'ai pas fait d'études. Mon travail, il me permet de bien vivre.
Mais moi non plus, Alexandre.
Voilà, il me permet de bien vivre. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de vous entendre. C'est des planqués, ils gagnent ceci, ils ont des 13e mois, ils ont ceci, ils ont cela. Moi, j'aimerais remettre l'église, au milieu du village. Et juste vous expliquer que nous, nos salaires, c'est nos primes. Moi, si demain, on m'enlève mes nuits, si demain, on m'enlève mes découchés, si demain, on m'enlève mes week-ends, moi, mon salaire, il retombe à 1800 balles.
Mais Alexandre, vous savez que demain, vous travaillez dans l'hôtellerie, vous faites 20 heures de nuit, vous allez gagner plus, avec moins de pénibilité. Donc, la question qu'on peut valablement se poser, c'est
venez travailler
quand
chez
les conditions sont pas bonnes. Pourquoi vous cherchez pas ailleurs plein l'hôtellerie recrute?
Non. Mais justement, je vais vous reprendre de voler là-dessus. Moi, je suis un ancien pépiniériste et paysagiste. J'ai commencé mon apprentissage, j'avais 15 ans. Je travaillais 60 heures par semaine pour 1400 balles par mois. Voilà ce que c'était, moi, mon travail à l'époque. J'ai tout fait pour essayer de rentrer dans une entreprise où il y avait de l'évolution de carrière, où on pouvait éventuellement faire des choses, faire ceci, faire cela. Ça fait bientôt 11 ans et ça fait 11 ans. Au fur et à mesure des années qui passent, nos salaires baissent. Et
là, je peux vous dire qu'aujourd'hui, un paysagiste pépiniériste, il gagne très bien sa vie. Il y a une vraie pénurie sur le sujet.
Mais arrêtez de dire des bêtises comme ça. Peut-être les paysagistes à Paris qui font des choses comme ça.
Alors, il n'y a pas beaucoup de paysagistes à Paris, on a plus dans le sud.
Oui, si vous voulez.
Alexandre, qu'est-ce que vous avez comme avantage? Parce que vous parlez du salaire, ok? Mais tous les avantages, les centres de vacances pour les enfants, il y a beaucoup de choses à la SNCF, comme il y en a dans la RATP, comme il y en a dans la police d'ailleurs. Il y a quand même beaucoup d'avantages sur ces niveaux-là. Est-ce que vous pourriez nous dire précisément?
Je vais répondre à votre question. Alors, effectivement, il y a des centres de vacances où on a accès. Alors, à savoir que dans les centres de vacances, il y a à peu près 50 000 places et on est 150 000 cheminots. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas pour tout le monde.
Non, mais ça, c'est bien.
Laissez-moi terminer. Ensuite, il y a les colonies de vacances pour nos enfants. Alors ça, effectivement, c'est plutôt intéressant, mais ça reste quand même aussi des places limitées, donc on n'y a pas forcément le droit systématiquement. Oui. Après, chacun son tour et c'est normal.
Vas-y.
Après, au niveau des primes, moi, je vais vous le dire, on n'a pas un 13e mois, on a une prime de fin d'année. Ma prime de fin d'année, elle s'élève à 1 600 €. Donc, elle est imposable parce que c'est une prime et non pas un 13e mois. Donc, c'est-à-dire que je paye des impôts dessus. On a une prime de vacances qui s'élève à 300 € et une prime d'intéressement pour vous situer. Je crois que cette année, elle était aux alentours de 200-300 €. Voilà. Donc effectivement, si vous considérez ça comme des avantages énormes, mais... bon, ben, je veux bien vous entendre, parce qu'effectivement, contrairement à d'autres, nous on a ça et peut-être d'autres, il y en a qui ont mieux. Mais moi, je trouve pas ça énorme.
Mais Alexandre, voyez, le problème, c'est que vous êtes tombé dans le piège. On est en train de faire des comparaisons.
Voilà,
vous gagnez plus ou moins. Moi, je pense que le problème, c'est que ces grèves, quand même, à répétition, parce que encore une fois, c'est statistique. Hein, il y a une grève au moins chaque année à la SNCF, et forcément, une grève à la SNCF, ça perturbe les gens, puisqu'il y a plus de train, et donc voilà. Mais il y a quand même un problème d'image ensuite que vous renvoyez. Après, mais moi, j'entends tout à fait ce que vous dites. Je pense qu'il y a un problème aussi avec la direction. Je pense qu'on a une méthode de management totalement archaïque dans ces boîtes publiques. On a le même problème à RATP. On voit bien, c'est des boîtes publiques qui sont gérées comme on les gérait il y a 50, 60 ans.
Je peux vous répondre, monsieur Cuchot? Moi, j'entends complètement ce que vous dites. Mais le problème d'opposer les différents métiers, vous le faites à longueur de journée? Depuis tout à l'heure, écoutez, monsieur Pomard et monsieur Manigold, faites
autre chose. Mais Alexandre, j'aimerais quand même vous répondre, du coup. Ce qu'on reproche, et fondamentalement, c'est de faire des grèves avant des négociations. Comme Olivier Truchot le disait, aller à la table des négociations, ferrailler pour vos intérêts, l'opinion publique sera de votre côté, et si jamais effectivement vous n'obtenez pas de façon rationnelle vos revendications, allez manifester. Mais là, ce que l'opinion publique, et c'est là où l'opinion publique décroche avec vous, c'est que vous faites des grèves avant de discuter, et c'est là où moi je suis pas d'accord, parce que moi je suis pour le dialogue social, mais pas le dialogue social où t'es pris en otage. C'est pas la même chose. On a une différence de méthode. Après, qu'il ne faille pas opposer les Français et les Français, je suis d'accord avec vous, mais dans ce cas-là, mettez-vous autour de la table, montrez dans les médias que vous discutez, que vous dialoguez, et après faites grève si ça marche pas.
Mais vous passez votre temps à le faire.
Mais c'est normal. Mais la réaction,
le préavis est posé fin octobre.
Tu as raison.
Vous parlez de l'ouvrier agricole, ça n'a rien à voir d'abord avec le mec de la SNCF, mais vous passez votre temps à opposer.
Mais parce qu'il parle de ses conditions.
Mais non, mais il a raison, Alexandre, c'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure. On n'a pas à opposer.
Non, le premier sujet, c'est poser une grève alors qu'il y a des discussions.
Je n'ai pas peur d'opposer, moi. Ça ne me dérange pas du tout, parce que justement, je les connais, ces gens-là. Je suis maire du rural, je ne suis pas tous les jours dans mon village. Je vois les ouvriers agricoles comme ils sont,
etc. J'aimerais bien qu'ils aient une meilleure vie.
Quelque part, ça m'emmerde quand j'entends, évidemment, ces comportements, point final. C'est factuel, tu as raison, peut-être j'oppose deux mondes, mais en attendant, c'est ça. L'ouvrier agricole qui gagne 1 000 euros par mois, il ferme sa gueule, on ne l'entend pas sur les radios et sur les télés.
Mais on aimerait bien. Et la SNCF, on les entend.
Excusez-moi, mais c'est comme ça.
Merci à Alexandre d'avoir été avec nous. Je vous dis à bientôt, Alexandre, parce que. Parti comme c'est parti, effectivement, les conflits à la SNCF, le mouvement social, c'est pour décembre. Et puis j'ai l'impression qu'on va continuer de le faire et d'en discuter. On va continuer de les avoir au mois de janvier. Les syndicats de la SNCF vont-ils nous gâcher Noël? C'est juste votre impression, là, la manière dont vous le présentez. Ouais. C'est quand même un oui très majoritaire à 67,6%.
Il y a une inquiétude.
Dans un instant, avec Marianne, avec Bruno, avec Stéphane, on s'en fout pas, avec notre productrice Anaïs Sens. Et pour 10h, tout à l'heure, le mouvement social aussi, celui des médecins, médecins généralistes, ils veulent une consultation à 50 euros.
Et
parmi les fers de lance pour la consultation à 50 euros, nous on a du monde partout dans les grandes gueules. Il y a Jérôme Marty avec son syndicat, donc on lui passera un coup de fil au Doc Marty.
On est partout.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Vous savez que tous les jours à 11h, c'est vous qui choisissez un sujet de discussion. C'est le à vous de choisir. On vous a proposé deux sujets tout à l'heure à 11h. C'est sur notre site internet, rmc.fr, que ça se passe. La fin du ticket de caisse automatique à partir du 1er janvier. Ou bien l'homme qui s'est introduit à l'Elysée. Simplement, il cherchait du travail. On l'a interpellé dans l'Elysée. Il voulait rencontrer Emmanuel Macron. Il avait profité d'une relève, entre guillemets, de la garde. Il a réussi à se faufiler.
Mais c'est pas rassurant, excusez-moi.
De quoi voulez-vous que l'on parle?
Il y a une petite défaillance.
Chef de la sécurité de l'Elysée, lui.
La fin du ticket de caisse ou cette intrusion à l'Elysée. Rendez-vous sur rmc.fr. On en parle tout à l'heure à 11h. C'est l'heure du on s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Avec Anaïs Sainz, notre productrice. Bonjour Anaïs.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Et direction d'abord la Haute-Vienne, où un chauffeur de car scolaire a été licencié pour arrêt sauvage car il déposait les enfants devant chez eux pour des raisons de sécurité. Est-ce qu'on s'en fout ou pas les GG? Marianne?
On s'en fout pas.
Stéphane Manigold.
Oui. Bruno?
Non, on s'en fout pas, c'est scandaleux.
Marianne? Et on s'en fout pas parce qu'en fait, cet homme-là faisait un vrai service public, c'est-à-dire qu'il devait déposer des enfants et comme il faisait nuit, pour des raisons de sécurité, il les déposait en fait le plus près possible de leur domicile, mais c'était pas forcément les arrêts. Et là, il a été licencié parce qu'en gros, on lui dit, vous avez des arrêts à respecter, comme s'il était une machine en fait. Mmh. Et moi, je m'en fous pas parce que cet homme-là vraiment été attentif et veillé à la sécurité des enfants. Donc, je veux même qu'il soit réintégré. Donc, nous demandons solennellement la réintégration de ce monsieur.
Il y avait une enfant, notamment, qui devait faire 650 mètres à pied
avec
sur,
un fossé,
au bord de
Rouen. C'est que s'il avait fait le contraire, tout le monde lui serait tombé dessus. Et c'est scandaleux. Comment abandonner un môme seul, etc.
D'ailleurs, les parents étaient reconnaissants, justement, qu'il fasse ce geste-là à chaque fois.
C'est le bon sens
d'un citoyen.
C'est le bon sens de quelqu'un qui fait du terrain. Et encore une fois, c'est la différence avec les mecs là, qui doivent gérer cette société, qui ont, sont dans un carcan avec des règles. Et je comprends qu'il y a des assurances et tout un tas d'éléments qui rentrent en jeu. Mais quand même, c'est le bon sens. C'est aller licencier ce monsieur, c'est scandaleux. Donc il faut qu'on fasse tous une manif devant l'Assemblée nationale.
Et surtout, c'est complètement débile parce que on trouve pas en ce moment des conducteurs. Oui. Mais bah, quel message tu envoies? C'est-à-dire qu'on cherche des chauffeurs partout. T'envoies le message finalement d'un métier totalement rigide. Bah, ou si le type qui fait preuve de bon sens se fait virer du jour au lendemain, enfin ça n'a
c'est scandaleux. Rien de valeur. Les concurrents de cette société devraient appeler ce chauffeur et l'intégrer.
Oui, il a saisi les prud'hommes de toute façon.
Ben oui,
donc,
ah bah oui. On verra. Et on est avec lui et en fait on lui envoie plein de soutien.
Tiens les GG, écoutez, à Lille,
il pourrait être conducteur de bus ou de train, pardon, il pourrait être conducteur de train, oui. Pourrait l'embaucher à la
comme
SNCF.
Ça, il n'y aura pas de.
Oui, mais le problème, c'est qu'il s'arrêterait tous les dimanches.
Ah, vous habitez là, ben je vous arrête.
Bougez pas. Paris-Marseille, tu mets 10 heures.
Les GG, à Lille, une prof a été menacée pour un projet de sortie scolaire auprès des migrants. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Marianne?
Ah ben on s'en fout pas.
Bruno. Ah, je m'en fous pas du tout, non.
Stéphane.
Ah non, on s'en fout pas du tout.
Bon, Marianne.
On s'en fout pas parce que j'imagine que cette personne, cette sortie scolaire, enfin, je veux dire, aller voir des migrants en soi, c'est pas non plus absolument scandaleux. Tu vas à la rencontre de gens qui ont des choses à apporter.
Sont des étudiants de classe prépa. Hein.
Mm-hmm. Voilà, c'est des classes prépa. En plus, t'as affaire à des adultes. Donc, bien sûr que non, je m'en fous pas, mais je trouve que quel que soit aujourd'hui, on a l'impression en fait que tout le monde pense que il peut avoir un avis sur ce qui est proposé par l'Éducation nationale. Ben, on n'a pas d'avis à donner.
Là, c'est Reconquête, hein, d'Éric Zemmour.
Ah oui, mais justement, on n'a pas d'avis à donner donc sur le contenu, etc., des sorties, des cours et tout. Donc non, on s'en fout pas et j'espère que cette personne est soutenue.
Moi, ce qui me dérange là-dedans, encore une fois, c'est la bien-pensance gauchiste de l'Éducation nationale, là, qu'on voit. Ben oui, c'est évident. Je vais vous dire pourquoi, moi. Parce qu'il y a peu de temps, j'ai été victime. Moi, j'ai été victime avec mon association, vous savez ce que je fais, dans le rapprochement des jeunes et la police. Et avec le DAZN du 93, je vais le nommer, 9-3.
Le quoi?
Le DAZN, c'est le directeur DAZN académique.
Voilà.
Parce que voilà. Raid Aventure, mon association fait des actions de rapprochement enfants-police. Eh bien, on m'a interdit de le faire dans le 93. Tout ça parce que, vous savez quoi?
Qui t'a interdit?
Le DAZN. Ah. 9-3, le directeur académique, avec la FCPE, vous voyez, le truc des parents d'élèves.
Ici. Voilà, les trucs de gaucho, là.
Parce que je présentais aux enfants ce que les missions de la police nationale à travers des ateliers où on montre pourquoi on menotte un enfant, pourquoi un adulte, je veux dire.
Ah, oui.
Et tout ça m'a été reproché par le 93, je dis bien, parce que les autres DAZN dans le 94 et dans d'autres académies, ça marche parfaitement bien. Eh bien, voilà.
Donc, c'est pour ça que les migrants, oui, mais pas des policiers.
Exactement. Voilà, merci de faire
le. Ce que je viens de dire, je pense que ni pour toi, ni pour cette enseignante, personne n'avait droit de remettre en cause le contenu. Donc pour moi ce qui vaut pour cette enseignante elle est aussi pour toi. Moi c'est tu vois moi je dis liberté en fait.
Tu seras mon avocate alors.
Les GG direction les États-Unis.
Notre baguette a été reconnue patrimoine immatériel de l'UNESCO. Mais je veux dire ici que dans ces quelques centimètres de savoir-faire passés de main en main, il y a exactement l'esprit du savoir-faire français. On a un produit qui est inimitable. Beaucoup ont essayé de le faire. Ils ont fait un truc industriel qui n'a pas de goût. C'est à une valeur inestimable.
Donc la baguette qui entre au patrimoine mondial de l'UNESCO, j'imagine que personne s'en fout autour de la table.
Bien sûr, c'est génial.
Alors, Stéphane,
t'es
pas venu les mains vides.
Mais je vous ai ramené de la French baguette, de la vraie.
Il nous fait du patrimoine. Est-ce que tu peux entendre le bruit de la baguette?
Alors, oui.
Ça, c'est beau, ça.
Et le pain, ça se rompt. Alors, les amis, je vais rompre le pain avec vous.
Merci.
Prenez et mangez-en tous. Et si tous les auditeurs d'RMC et téléspectateurs d'RMC Story peuvent aller acheter une baguette pour montrer à quel point on aime nos artisans boulangers, ce serait une bonne chose. Et je profite de ce manuel.
Moi, je fais le quignon, moi. Le crouton, moi, toujours.
Bah, moi aussi, j'adore le crouton. Et je profite de la perche qu'Emmanuel Macron nous tend. Aujourd'hui, les dispositifs de protection qui sont mis en place, justement, protègent les industriels et absolument pas nos artisans boulangers. Donc, il faut aider nos artisans boulangers.
Elle vient d'où, sa
baguette ? Pour ça que je les soutiens.
Elle vient
d'une boulangerie qui est à Paris dans le 17e. Il a été élu meilleure baguette de Paris. En 2006, et c'est un artisan qui se lève tôt, qui se couche tard, comme de nombreux artisans français. Non, vive la France, vive la baguette, et vive nos artisans.
Prochaine étape, les amis.
Tu veux dire non, c'est boulangerie.
Elle est place des Ternes, à côté d'un restaurant qui s'appelle la brasserie de la Lorraine. Elle est juste à côté. C'est une autre petite boulangerie qui est superbe.
Alain, la prochaine étape, c'est le cassoulet.
La boulangerie s'appelle Merci Jérôme.
Patrimoine mondial, évidemment.
Ah, je vote pour. Non. On ne parle pas à la bouche laine,
et la prochaine fois, je ramène du camembert, du saucisson et du Beaujolais.
J'en ramène un sur le plateau. Alors, la prochaine fois, le
plateau. Alors, Bruno et moi vous expliquer. Si vous n'êtes pas fan du cassoulet, c'est que vous n'avez jamais mangé de vrai cassoulet.
Bravo, je préfère le confit de canard.
Les GG, rapidement, on reste.
Non, mais le gras, c'est la vie.
On reste à Washington. Est-ce que vous voulez connaître le menu du dîner d'État ce soir à la Maison Blanche ?
On s'en fout,
je m'en fous, mais complètement.
Pas du tout.
Allez, on m'en fout.
Elle s'en fout. Il y en a deux qui s'en foutent, mais pas Stéphane.
Alors, à l'apéritif, homard poché au beurre, également du caviar, puis croustillant de céleri. Tous avec des produits américains, évidemment.
Ça, c'est une recette de Christophe Saint-Agne, qui est chef et que je salue, qui est un chef extraordinaire. Ça, c'est une recette de Christophe Saint-Agne.
Un repas avec un beau gros filet de bœuf venu de l'Iowa. Là, c'est pour les hommes virils de cette réception.
Je préfère la viande française.
Accompagné d'une marmelade d'échalotes et de petits légumes du potager de la Maison Blanche, s'il vous plaît.
Plateau de fromage. Maison Blanche.
Alors, plateau de fromage avec notamment du cheddar, mais pas n'importe quel cheddar d'un producteur du Wisconsin, puisque nous, on a l'habitude de les
fromages là. Des Français, c'est gonflé.
Le problème, c'est que le fromage, ils n'ont pas de fromage au lait cru là-bas. Ils interdisent la plantation.
Ils nous piquent tous les produits.
Et en dessert, s'il vous plaît, un gâteau mousseline à l'orange, une poire rôtie avec une crème glacée à la crème fraîche.
Les présidents américains ont le sens du savoir-vivre. Quand Barack Obama avait été reçu à l'Élysée, chez Guy Savoy, ils avaient fait un menu. Et derrière, pour Guy Savoy, n'imaginez pas qu'il allait demander. Et Barack Obama a dit : nous sommes en France, je souhaite manger du fromage. Branle-bas de combat en cuisine, parce qu'ils n'avaient pas imaginé que Barack Obama allait manger du fromage. Et bien voilà, nos amis américains savent s'adapter et c'est une bonne chose.
Merci Anaïs et merci pour la baguette Stéphane Manigol,
pour
patrimoine mondial de l'UNESCO. Ouais. Dans un instant, les médecins.
Quelqu'un a du beurre.
Les médecins et du Beaujolais.
Certains médecins qui sont en grève, ils veulent voir passer le prix de la consultation à 50 euros. 50 euros, on dit go, parce qu'après tout, aujourd'hui, la consultation, c'est au même prix que passer chez le coiffeur.
Oui, go.
25 euros, tu vois, c'est ça, à peu près une coupe de cheveux, c'est 30 euros maintenant.
De 25 à 50, il est gonflé, je remarque.
Donc, il va le passer. Ouais, mais enfin, comptez pas. Il va le passer à 50 euros. Donc, 50 euros, oui ou non pour les médecins. À tout de suite avec les GG.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.